Crimes non résolus, trésors maudits, mystères, occultisme, les unes des journaux récentes ou passées regorgent ces chroniques inquiétantes de ces aventures incroyables qui, du jour au lendemain, ont bouleversé la vie d'hommes et de femmes dont le seul tort fut de se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Je suis Hervé Michel, écrivain, et je vous invite à me suivre sur les sentiers les plus tortueux de l'âme humaine jusqu'au terme de ce voyage au cœur de l'étrange. Découvrons ensemble des histoires insolites qui, je l'espère, ne troubleront pas vos rêves de la nuit. Bienvenue dans cette série intitulée « L'écrivain mène l'enquête ». Je profite de ce podcast pour vous annoncer, dans le courant du mois de février 2022, la sortie aux éditions Ex-Echo de mon nouveau roman à suspense, « Le secret du Bellérophon ». Vous pourrez retrouver toutes les infos me concernant sur mon site hervémichel.net. Les bouchers de Valensole. Lorsque le commissaire Guibal de la brigade mobile de Marseille entre dans cette ferme isolée du plateau de Valensole, dans le Vaucluse, il a du mal à soutenir l'horrible spectacle qui s'étale outrageusement devant ses yeux. On est au début du mois de décembre 1928, mais s'il frissonne, cela n'a rien à voir avec le courant d'air glacé qui s'engouffre dans la pièce par la porte restée grande ouverte. Les flashs bleus qui illuminent la cour, à l'extérieur, ne sont pas des décorations de Noël. Ce sont les gyrophares des voitures de police qui ont investi la ferme des Courelis, qui appartient à la famille Richaud, une brave famille d'agriculteurs sans histoire. Ce sont des gens simples et travailleurs. Il y a tout d'abord le père, Adrien, la mère, Françoise, le fils aîné, Clément, 10 ans, le petit dernier, Robert, quelques mois à peine, et une bonne qui fait un peu partie de la famille. Elle s'appelle Amandric. Et de tous ces braves gens, eh bien, ce matin-là, plus aucun n'est en vie. Les corps gisent là, devant Guibal. La mère a reçu 4 balles de petit calibre en pleine poitrine. Le petit Clément a eu le crâne fracassé. Amandric a reçu une balle en plein visage. Et Robert, le nourrisson, eh bien, il a subi le même sort que son frère. Son crâne a été défoncé. De plus, toutes les victimes ont été défigurées, hantées ou post-mortem, on ne sait pas encore, à l'aide d'une grosse pierre que l'on retrouve sur les lieux. Les décès remontent au moins à 3 ou 4 jours. Quant à Adrien, le maître de maison, il reste introuvable. Immédiatement, Guibal pense à un drame familial. Un homme qui pète les plombs et massacre sa famille, puis s'enfuit et finit par se supprimer, ça s'est déjà vu. Adrien Richaud est peut-être quelque part dans la montagne, déjà mort, qui sait ? En réalité, il ne faudra pas aller bien loin pour le retrouver. Un agent de police accourt. Commissaire, commissaire, on a trouvé un autre corps dans la grange. Il était caché sous une bâche et tué d'une balle dans la nuque. La théorie de Guibal vole en éclats. Difficile, en effet, de se suicider d'une balle dans la nuque, puis de se recouvrir soi-même d'une bâche. Mais que s'est-il donc passé dans cette maison qui a pu déclencher un tel déchaînement de violence ? Très rapidement, la piste du vol qui a mal tourné se dessine. En effet, la ferme a été fouillée, un coffre-fort est découvert, béant et vide, le portefeuille d'Adrien Richaud a disparu, de même que la bicyclette de la bonne. Cela indique plusieurs choses aux policiers. D'une part, que le ou les assassins, mais Guibal penche pour au moins 2 individus, sont venus à pied, qu'ils ont surpris la famille ou alors qu'on les a laissés entrer, puis qu'une fois leur terrible forfait accompli, ils se sont enfuis sur le vélo de la bonne. Ils n'ont pas dû passer inaperçus dans ce pays certes isolé, mais où un étranger se remarque à des kilomètres à la ronde. Effectivement, non loin de là, dans une autre ferme, 2 vagabonds, un très jeune et un autre un peu plus âgé, sont venus frapper le soir du crime pour demander le gîte et le couvert. Comme le paysan ne les a pas reçus, Eh bien, ils ont poursuivi leur route vers les Kourélis. L'homme a même entendu le plus âgé dire à son compagnon que là on les recevrait. Il connaissait donc la famille Richaud. Peut-être un ancien journalier. Toujours est-il qu'à présent, le commissaire Guibal possède un signalement très précis des deux suspects qui, il en est sûr, ont fait le coup. Par chance, Adrien Richaud était un homme méticuleux qui tenait scrupuleusement à jour sa comptabilité. Les noms et les salaires de tous les journaliers qui étaient passés chez lui étaient notés dans un registre. Et il n'y en avait pas tant que cela, une dizaine à peine. Un rapide recoupement fait émerger un nom de la liste. Jules Huguetto. Écœuré par ce qu'il a vu dans la ferme, le commissaire lance une vaste chasse à l'homme dans tout le pays. Les fuyards ont été repérés sur leur vélo se dirigeant vers Volx. Immédiatement, le policier et trois inspecteurs sautent dans leur voiture et rejoignent le petit village situé à quelques kilomètres de là à peine. Là, ils apprennent au café du coin que Huguetto et un type un peu plus jeune sont passés le lendemain du crime et qu'ils ont vendu des pièces d'or au patron. Puis, ils ont dormi dans une grange un peu à l'extérieur du village. On y retrouve le portefeuille et les papiers d'Adrien Richaud. Si un doute subsistait encore, eh bien, à présent, il n'est plus permis. Ce ne sont pas moins de 2000 gendarmes qui sont mobilisés pour la traque des fugitifs. Leur piste est facile à suivre. Manosque, Apte, Cavaillon, ils ont écumé tous les bars et les auberges, dépensant sans compter leur argent acquis au prix du sang. Cependant, les enquêteurs ont un handicap de 5 jours sur les fuyards. Alors Guibal a une idée. Il a bien compris que ces deux-là étaient des fêtards, et il sait aussi que souvent après un crime de sang, un crime violent, les assassins cherchent la douceur des bras féminins. Chercher la femme. Le vieil adage reste toujours d'actualité. Il fait donc surveiller tous les lieux où pour 10 sous on peut trouver l'amour le temps de quelques heures ou d'une nuit. Mais là encore, ils font chou blanc. Pas une seule fille de joie n'a été honorée ces dernières semaines par des individus correspondant au signalement des suspects. Une évidence s'impose alors à Guibal. Il ne cherche pas 2 individus, mais un couple. Une enquête est donc lancée dans les milieux homosexuels. Quelques jours plus tard, le commissaire Guibal et ses adjoints dînent dans un restaurant de Marseille lorsqu'un gendarme apporte un pli. Les deux hommes ont été pris dans un banal contrôle d'identité. Immédiatement, le policier se rend sur place. C'est bien Huguetto qui est là devant lui, ainsi que son jeune compagnon, Joseph Witowski, 18 ans à peine, mais un passé criminel déjà bien lourd. Guibal n'a pas à les interroger bien longtemps pour les faire craquer. C'est Witowski qui craque le premier et qui, en pleurant, accuse Huguetto de l'avoir entraîné dans cette équipée sanglante. Le procès révélera une toute autre histoire, mais pour l'heure, le jeune Polonais raconte comment ils ont assassiné toute une famille quelques semaines plus tôt. En quête d'argent, Huguetto avait décidé d'attaquer une ferme dans laquelle il avait travaillé durant la saison précédente. Un soir donc, il frappe à la porte. C'est Adrien Richaud qui ouvre. « Tiens Jules, ça alors, quelle surprise! Mais qu'est-ce qui t'amène par ici ?»« Bonsoir patron, mon ami et moi cherchons du travail. »« Ça tombe bien, répond le paysan. J'ai besoin de bras en ce moment. Venez, je vais vous préparer la grange pour ce soir, et puis je vous ferai préparer un bon repas chaud. » Sur ces bonnes paroles, le paysan conduit en toute confiance les deux hommes vers la grange voisine. Mais une fois à l'intérieur, les assassins lui sautent dessus, Richaud se défend. C'est alors que Huguetto sort un pistolet, un 7.65, et l'abat d'une balle dans la nuque. Il retourne ensuite vers la ferme où bien sûr le coup de feu a été entendu. Madame Richaud s'inquiète en voyant les deux hommes revenir sans son mari. Ses doutes ne dureront pas bien longtemps. Huguetto l'abat de 4 balles à bout portant. Voyant cela, le petit Clément saisit une chaise et tente de frapper l'homme qui lui arrache son arme improvisée et la retourne contre lui. D'un seul coup, il lui fracasse le crâne. Reste la bonne qui hurle dans un coin et le bébé dans son landau. Huguetto tend alors l'arme à Witowski. Il doit faire sa part lui aussi. Sans hésiter, le jeune homme saisit le pistolet et tire une balle dans la tête d'Amandric. Il saisit ensuite une chaise et s'acharne sur le bébé, jusqu'à ce que ses cris s'éteignent. Pris de folie, le jeune Polonais se sert ensuite d'une grosse pierre et fracasse les crânes des victimes, dont certaines respirent encore. Puis, le calme revenu, Les deux hommes pillent la maison et s'enfuient sur un vélo qui se trouvait devant l'entrée. La suite, vous la connaissez. Ce que le procès révélera en plus, c'est que cette équipée meurtrière fut initiée non pas par Huguetto, mais par Witowski. En effet, Huguetto, tombé amoureux du jeune homme, se trouvait être sous sa coupe. Un jour de vache maigre, ce dernier lui avait lancé un ultimatum. « Ou tu trouves de l'argent, ou je te quitte. » C'est là que le journalier avait pensé à ce bon Richaud qu'il avait accueilli et dont il savait qu'il conservait de l'or quelque part dans la ferme des Courilis. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais j'ai trouvé le climat de cette sordide affaire particulièrement étouffant. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. C'était Hervé Michel pour la série « L'écrivain mène l'enquête ». Il me reste à vous donner rendez-vous dans 15 jours pour évoquer une nouvelle affaire criminelle, pleine de mystères. «